Voici une question qu'on devrait tous poser. Quelle est la définition de la vraie foi selon Dieu? La réponse est dans la parole de Dieu et nous l'entendrons aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. On a des questions auxquelles Dieu veut donner les réponses. En voici quelques-unes. Est-ce que d'autres gens peuvent remarquer que la main de Dieu est avec moi? Dans mon travail, est-ce que je dois être fidèle à mon patron afin de démontrer que je suis fidèle à Dieu? Quand j'ai une victoire au bout d'une épreuve, est-ce que Dieu doit recevoir toute la gloire? Comment mes actions peuvent-elles démontrer que j'ai confiance en Dieu à travers mes épreuves? Et que signifie une foi agissante? Dieu veut que notre foi grandisse. C'est pourquoi il a donné les réponses à toutes nos questions. Il les a données au pasteur Régent Joly, qui va nous enseigner de nouveau aujourd'hui. Mais premièrement, prions. Seigneur, tu sais qu'on désire être fidèle à toi, peu importe l'épreuve. On désire avoir une foi agissante. On a besoin que tu nous instruises, afin qu'on sache comment faire, Seigneur, pour t'être fidèle. Comment mettre notre foi en évidence dans notre vie. On a besoin de toi, Seigneur. Parle-nous, instruis-nous. Viens nous fortifier par ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Nous sommes au verset 46 de Genèse 41. Je dois reprendre notre récit. Joseph a eu la vie difficile en Égypte. Maintenant, il est convoqué au palais pour expliquer le rêve de Pharaon. Il donne l'interprétation des rêves et annonce 7 ans d'abondance suivis de 7 ans de famine. Il recommande à Pharaon d'entreposer du grain dans les silos d'Égypte et de prévoir pour les années de famine. Pharaon ne voyait pas à qui d'autre que Joseph, il pouvait confier cette lourde responsabilité. Après 13 ans dans le pays d'Égypte, Joseph occupe un poste peut-être équivalent à celui du premier ministre. Seul Pharaon était au-dessus de lui en Égypte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Pharaon était si disposé à accepter Joseph? Premièrement, Dieu était avec Joseph. Nous voyons depuis le début la main de Dieu sur Joseph. Dieu dirigeait la vie de Joseph par sa providence. Joseph a lui-même reconnu que Dieu a utilisé le crime de ses frères pour bénir son peuple. C'est merveilleux de constater et de réaliser que la main de Dieu est avec nous. Cependant, il y avait peut-être une autre raison très pratique pour laquelle Pharaon était disposé à accepter Joseph. Des érudits pensent qu'à cette époque, Pharaon était un des rois Hyksos. Les Hyksos n'étaient pas des Égyptiens, mais des Bédouins, provenant du désert d'Arabie. Ils étaient nomades et pendant un certain temps, ils ont occupé le trône d'Égypte. Si cela est vrai, et je crois personnellement que c'est le cas, la race de Pharaon était plus proche de celle de Joseph que celle des Égyptiens, et ce serait la raison pour laquelle il faisait confiance à Joseph. En fait, les rois Hyksos éprouvaient de la difficulté à trouver quelqu'un en Égypte qui leur serait loyal et fidèle. La fidélité était un trait de caractère de Joseph, parce qu'il savait que Dieu dirigeait sa vie. Il était fidèle à quiconque Dieu le soumettait. Il était fidèle à sa tâche, parce qu'il savait que tout venait de Dieu. Un lien racial entre lui et Pharaon explique peut-être pourquoi Joseph a trouvé Pharaon très disposé à son égard à ce moment-là. Joseph fut très fidèle au Pharaon. Notez que Pharaon a placé une chaîne autour du cou de Joseph, ce qui lui conférait la même autorité que celle de Pharaon. De plus, Pharaon lui donnait pour épouse la fille du prêtre Don. Elle s'appelait Asnath, et cela signifie « dédiée de Nit », une déesse égyptienne. De toute évidence, elle était une païenne. Cette femme venait d'un milieu idolâtre. Cet événement dans la vie de Joseph ressemble à un élément de la vie de Christ. Joseph a épousé une païenne et le Seigneur Jésus-Christ appelle présentement son épouse l'Église, qui est composée de ce monde païen. Dans le même verset, nous trouvons un autre point de ressemblance. Joseph fut conduit devant Pharaon à l'âge de 30 ans. Le Seigneur Jésus débuta son ministère public au même âge. Donc, à 30 ans, Joseph entreprend une carrière de gouverneur. Pendant les 7 ans d'abondance, il remplit les greniers d'Égypte avec tous les produits du pays. C'est maintenant l'heure de débuter notre lecture. Genèse 41, verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Que fait-il? Pendant les 7 années d'abondance, il entrepose du blé et les produits de la terre. Ce sont les 7 années de grande abondance. Et pendant ces années, les récoltes furent miraculeusement exceptionnelles. On ne manquait de rien pendant ces années. Pour ceux qui s'en rappellent, lors de la dernière guerre mondiale, nous avons, ici même, accumulé des surplus dans notre pays. Et nous avons créé un problème agricole. Si à cette époque, vous aviez voyagé par train dans l'Ouest canadien, vous auriez vu des silos, des entrepôts de grains accumulés par le gouvernement. Il y en avait des milliers. Beaucoup ont pensé à l'époque que c'était ridicule de faire cela. Aujourd'hui, on ne voit plus ces silos et ces entrepôts à grains. Nous avons fait parvenir la nourriture dans le pays pauvre. Maintenant, nous n'en avons pas assez pour nourrir les affamés de la planète. Quelqu'un a suggéré qu'on envoie du grain à la centaine de millions de personnes mourantes. Mais nous n'en avons pas assez. Le surplus est presque tout consommé. La question maintenant est celle-ci. Qui laisserons-nous crever de faim au cours de la prochaine décennie? Problème de famine dans le monde. Je n'ai pas la réponse, chers amis. Mais voici ce qui est important de noter. Pendant les 7 années d'abondance, Joseph engrangera le grain parce que suivront les 7 années de famine. Pendant les 7 années de fertilité, nous dit le texte, Genèse 41, et cette fois les lectures des versets 47-48, pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte, et il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Notez qu'il entreposait les provisions dans chaque ville. Il a prévu la distribution de toutes ses denrées. Joseph fait preuve de prévoyance. Il entrepose les produits dans chaque ville. Les surplus de chaque région sont entreposés dans la ville la plus proche. Les surplus sont accumulés dans chaque ville, prêts à être distribués. Verset 49 précise « Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. » Jetons un coup d'œil sur la famille de Joseph. Ah, la caméra s'installe, et voilà que le focus se fait sur cette chère et belle famille de Joseph. C'est ce que nous lisons, Genèse 41, versets 50 à 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Ces garçons naquirent avant la famine. Il a appelé son premier fils Manassé. Je dirais qu'un excellent nom pour lui serait Amnésie, car cela indique que Dieu a permis à Joseph d'oublier ses malheurs. Il était tellement occupé qu'il ne pensait plus à la maison de son père. Au début, il avait le mal du pays, mais plus maintenant. Dans la première partie de ce chapitre, nous avons vu Joseph à sa sortie de prison, alors qu'il s'est rasé et s'est changé avant de se présenter devant Pharaon. Il peut vous sembler que ce détail n'est pas intéressant, et que seule Gillette, celle qui rase de plus près, pourrait y trouver un intérêt quelconque. Mais ce geste a une valeur symbolique. Cela devrait nous rappeler la résurrection, car il a mis de côté son ancienne vie pour en débuter une nouvelle. À partir de ce moment-là, il s'est habillé comme un Égyptien. Il a parlé comme un Égyptien, il a vécu comme un Égyptien. Il dit, « Dieu m'a fait oublier. » Donc, il nomme son fils Manassé, celui que vous pouvez appeler Amnésie, si vous le désirez. Il a appelé son deuxième fils Éphraïm, ce qui signifie « fécond ». Retournons à notre texte. Genèse 41, verset 53. « Les 7 années d'abondance qu'il y eut dans le pays d'Égypte s'écoulèrent. Les temps d'abondance sont maintenant terminés et la famine fait son apparition. Joseph a 37 ans. N'oubliez pas ce détail en lisant le prochain chapitre. Genèse chapitre 41, les versets 54 et 55. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Remarquez que c'est Joseph qui avait le pain. Nous voyons une autre similitude avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il déclare et dit « Je suis le pain de vie ». Genèse 41, cette fois, la lecture des versets 56 et 57. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. C'est donc une famine mondiale. Les événements dramatiques de la vie de Joseph arrivent à leur terme. L'intention de Dieu d'utiliser Joseph pour sauver la famille de Jacob pendant la famine et l'emmener en Égypte avec ses fils devient évidente. Lorsqu'il était en prison, Joseph ne pouvait pas voir tout cela. Mais il fit confiance à Dieu. Il était un homme qui fut toujours enthousiaste et optimiste à cause de sa foi. En ce qui me concerne, j'aimerais tellement être imprégné de foi, de telle sorte que, quelles que soient mes circonstances ou qu'il se produise quoi que ce soit, je sois toujours un optimiste. Je vous le dis, il ne faut pas grand-chose, un petit nuage gris à peine, pour que je ne sois pas aussi optimiste que je devrais l'être. Je pense que cela est vrai pour plusieurs d'entre nous, n'est-ce pas? Joseph est dans une situation unique. Que va-t-il se produire maintenant? Je pense que l'on peut presque deviner ce qui va se produire. La famine est répandue dans tous les pays, et tous viennent en Égypte pour obtenir du blé. Devinez qui s'en vient. La famine oblige Jacob à envoyer ses 10 fils en Égypte pour acheter de la nourriture. Oui, oui, la famille de Joseph. Pourquoi seulement 10? Pourquoi Benjamin n'est-il pas descendu avec ses frères? Jacob craignait de perdre Benjamin, et il en serait mort s'il avait perdu ce jeune homme. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Pourquoi? Bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, ils le pensaient mort, donc ils ne le cherchaient pas, ils ne s'attendaient pas à le rencontrer. Ils ne s'attendaient pas à revoir Joseph. Mais celui-ci s'attendait à les revoir. De plus, plusieurs années s'étaient écoulées. Joseph fut vendu à l'âge de 17 ans. Maintenant, il a plus de 37 ans. Si la famine durait depuis 1 an, cela signifie qu'ils ne l'ont pas vu depuis 21 ans. Il a presque 40 ans. Il porte des habits égyptiens. Il parle et agit comme un Égyptien. Mais là, nous prenons un peu d'avance, là. Calmons-nous. Lisons ensemble Genèse 42, verset 1er. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Ils se regardaient d'un air malheureux, ne sachant pas vers qui se virer pour obtenir du secours, ne sachant pas quoi faire. Ils sont désespérés. Genèse 42, verset 2, il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Ah, la foi agissante! Quelle belle illustration de cette foi vivante, efficace! Plusieurs trouvent que la foi, si mystérieuse qu'elle soit, qu'elle ne sait pas comment agir dans telle et telle circonstance. Souvent j'ai discuté avec des hommes qui ne voulaient pas croire. Ils disaient, « Bien, comment puis-je croire? » Mais remarquez comme Jacob a cru dans ce verset. Il avait entendu quelque chose. « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. » Il a cru que cela les sauverait. Sa foi l'a porté à agir. « Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Mes amis, voici un exemple de foi salvatrice. Certains demandent, « Comment puis-je croire en Jésus? » Pouvez-vous imaginer Jacob se tenant devant ses dix fils en disant, « On raconte qu'il y a du blé en Égypte, mais comment vais-je le croire? » Bien, la façon de croire est d'agir en conséquence. La Bible dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est ce que nous pouvons lire dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 31. Vous entendez quelque chose et vous le croyez. C'est ce qu'a fait Jacob. C'est ainsi qu'il a obtenu le blé nécessaire pour la survie de sa famille. Et la façon que vous et moi obtenons la vie éternelle, c'est par la foi en Jésus-Christ seul. Genèse 42, versets 3 et 4. Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Supposons qu'il arrive une mésaventure aux dix frères. Qu'en serait-il? Bien, premièrement, ils sont plus âgés, mais en fait, cela serait moins douloureux pour Jacob que s'il perdait Benjamin. Benjamin et Joseph étaient les fils de Rachel, rappelez-vous, l'épouse que Jacob avait aimée profondément. Maintenant, il envoie tous ses fils en Égypte et garde seulement Benjamin avec lui. Genèse 42, verset 5. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Maintenant, nous arrivons à une scène dramatique. Genèse 42, verset 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph savait qu'il devrait venir un jour. Il avait reçu des délégations de tous les pays de la terre habitée. La famine était mondiale, donc il gardait un œil ouvert. Et voilà, les dix frères arrivent. Ils se prosternent tous devant lui. Ils mirent tous la face contre terre devant Joseph. Nous nous demandons comment ils se sentaient. En pensant, « Qu'en pensez-vous? » Nous voyons l'accomplissement des rêves de Joseph. Vous rappelez-vous, alors qu'il était un jeune garçon, il avait rêvé que les gerbes de ses frères s'inclineraient devant sa gerbe? Le rêve se réalise. Ses frères aînés sont devant lui, face contre terre. Poursuivons notre lecture, Genèse 42, versets 7 et 8. Joseph vit ses frères, et les reconnut, mais il finit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Savez-vous pourquoi il leur parla durement? Pour les éprouver. Nous verrons qu'il va les éprouver jusqu'au bout. Il va leur demander des questions qui les feront réfléchir. Poursuivons. Genèse 42, versets 9 à 11. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur. Tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Croyez-moi, Joseph met le paquet. Genèse 42, versets 12 et 13. Il leur dit, « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il y en a un qui n'est plus. » Ceci est un moment émouvant. Joseph les questionne beaucoup. Il cherche à obtenir le plus de renseignements possible au sujet de sa famille sans se faire connaître à eux. Il les accuse d'être des espions. Il y a seulement 10 hommes devant lui. Ils reconnaissent qu'ils sont 12 frères et qu'il y en a un à la maison avec leur père. Ils pensent que l'autre n'est plus. En d'autres mots, ils pensent que Joseph est mort alors qu'il se trouve là, devant eux. Nous terminons notre lecture. Lecture d'aujourd'hui, Genèse 42, les versets 14 à 16. Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et ils les mit ensemble 3 jours en prison. Résumons. Dieu éprouve son serviteur Joseph. Joseph, à son tour, éprouve ses frères. Aujourd'hui, Dieu éprouve les siens. Pourquoi? Parce qu'il veut que notre relation soit basée sur la franchise, l'honnêteté. Il veut construire sa vie sur un fond solide. Donc, il doit éprouver mon cœur, ton cœur, pour que nous puissions réaliser où est-ce que nous en sommes vraiment rendus dans cette relation avec Dieu. Voilà le but, le pourquoi des épreuves, chers amis. L'auteur d'une lettre du Nouveau Testament, Jacques, nous le dit. Et je cite, Jacques chapitre 1er, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà ce que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche, il le trouve. Et cela devrait faire un sujet de joie pour chacun d'entre nous. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première lettre, chapitre 1er, versets 6 et 7. Je cite. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oh, que nous puissions désirer ardemment que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Prions pour cela. Demandons à Dieu. Préparons-nous même pour l'émission, pour la prochaine émission. Nos prochains textes bibliques seront chapitre 42, verset 15, jusqu'au 43e chapitre, 15e verset. Oh, ce n'est pas facile, ça va être ardu. Mais prenons cette discipline, jour après jour, de lire, de méditer la parole de Dieu, en train d'élaborer, d'expliquer, commenter ces autres textes.
Merci, Régent. On a appris aujourd'hui que Pharaon voyait que la main de Dieu était avec Joseph. Joseph était fidèle à son patron, ce qui démontrait sa fidélité envers Dieu. Puis tout ça parce qu'il savait que Dieu dirigeait sa vie. Est-ce que c'est Dieu qui dirige ta vie, toi? Ou essaies-tu en vain de la diriger toi-même? Je dois t'avouer que ça m'arrive des fois. J'ai remarqué que des fois, j'essaie d'accomplir quelque chose par moi-même, puis ça marche jamais dans ce temps-là. Mais dès que je m'en repens puis que je demande à Dieu de m'aider, c'est complètement différent. Je remets tout ça dans les mains de Dieu et c'est Lui qui agit. Il y a pas longtemps, j'étais responsable d'une soirée de baptême à mon église. Et on avait des gros problèmes techniques et j'essayais je demandais à un de faire ci, à un autre de faire ça pour me venir en aide, et ça marchait pas. Puis je suis retournée chez moi abattue, et je devais me préparer, me disposer pour amener la louange à mon église le lendemain matin. Et là, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ça va pas, je te demande de mettre tes mains. Je suis pas capable de le faire sans toi, j'ai besoin de ta force toute puissante. Et je me suis endormie comme ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une joie dans le cœur. J'étais convaincue, j'avais confiance que Dieu était pour agir. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est ton œuvre qu'on s'en va faire ce matin. On a une belle équipe de louanges à notre église. Alors, je me confie pas en eux, je me confie pas en nos techniciens, je me confie en toi. Et ma joie est en toi seul. Je refuse de me laisser abattre par les problèmes techniques. C'est ton œuvre, c'est entre tes mains. Et je suis partie pour l'église dans la joie. Et je suis arrivée à l'église. Il y avait un frère qui devait pas être là ce matin-là, qui était là pour nous aider avec l'éclairage. Un autre était là pour aider avec le son. Tout s'est placé et on a fait deux beaux cultes à Dieu, deux beaux cultes d'adoration. Et la gloire en est revenue à Dieu seul parce que j'ai lâché prise. J'ai laissé Dieu agir. Et c'est son œuvre, c'est lui, il est tout puissant. Nous, on est des faibles créatures. On y offre nos petits pains, nos petits poissons, puis c'est lui qui multiplie, puis qui se glorifie à travers tout ça. Et en plus, dans le texte, on voit que Jacob avait une foi agissante, parce qu'il a envoyé ses fils chercher du pain en Égypte. Il savait qu'il y avait du pain en Égypte. Toi, mon ami, est-ce que tu sais que Jésus est le pain de vie? Que c'est lui qui t'offre la vie éternelle? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu prends Jésus au mot? Jésus est le pain qui donne la vie éternelle. Réjean a mentionné un verset tantôt. Il disait, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Est-ce que tu crois que Jésus est le pain de vie? Ce pain qui peut te donner la vie éternelle. Eh bien, tu peux aller le chercher, ce pain-là. Jésus te l'offre. Il frappe à ta porte. C'est lui-même qui est ce pain qui a été rompu. Son corps a été rompu pour toi à la croix. Jésus a été ce sacrifice vivant, ce sacrifice parfait que son Père a agréé pour te donner la vie éternelle. Alors reçois ce pain de vie aujourd'hui. Et la Bible dit que tu n'auras plus jamais faim. Tu vas être rassasié parce que Jésus il donne pas avec mesure. Il donne la vie éternelle et il rassasie l'âme de celui qui croit en lui. Est-ce que tu crois en Jésus? Reçois-le comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Reçois Jésus dans ta vie. Accepte-le. Il frappe à ta porte. Ouvre la porte. Il va entrer chez toi.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformée par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici, Réjean Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.